La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'Orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens.
Bonjour à tous et bienvenue dans Près du cœur. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la justice restaurative. Ce système vient en complément de la justice pénale et vise la création d'un lien entre victime et auteur de délit grâce à différentes étapes de dialogue. La victime trouve dans ce processus la possibilité de s'exprimer sur le préjudice qu'elle a subi et sur l'impact qu'il a eu sur sa vie. Elle peut également recevoir certaines réponses aux questions qu'elle se pose et participer à la mise en responsabilité de l'auteur pour les faits qu'il a commis. Les auteurs, quant à eux, ont l'occasion de s'exprimer sur ce qui les a menés au délit et sur les conséquences de celui-ci sur leur vie. Ils peuvent également réaligner les choses avec leur victime dans la mesure du possible par certaines formes de compensation. Pour mieux comprendre cette démarche, nous recevons dans un instant Héloïse de l'Institut français de justice restaurative, l'IFJR. On écoute au préalable Claudio Capéo sur le sujet du harcèlement scolaire, ici avec une issue heureuse, même si trop tardive. Nous verrons que l'approche restaurative peut également se pratiquer en milieu scolaire.
Petite fille a les yeux mouillés ce matin, mais ce n'est pas la pluie, ce sont ses petits copains qui lui disent qu'elle est grosse, qu'elle est moche, qu'elle ne vaut rien. De l'avoir pleuré, ça leur fait peut-être du bien. Elle noircit des pages, elle écrit des poèmes qui parlent de voyage, d'oublier les problèmes. Son cœur prend de l'âge, mais ce n'est qu'une. Dans la classe, elle veut être invisible, se fondre dans la masse. Pour elle, y'a pas d'amour, y'a que des juges en cartable qui l'attendent dans la cour. De quoi est-elle coupable? Elle prend sa guitare pour s'évader un peu, se fait des histoires du prince merveilleux, dessine des mirages avec ses yeux d'enfant. Tu prendras le large et d'abord prends le temps. Sur son cahier, elle se dit à elle-même, Tu verras ma jolie, le bonheur est un trésor que l'on retrouve quand on s'oublie. Tu verras ma jolie.
Bonjour Héloïse, merci beaucoup de venir répondre à nos questions sur la justice restaurative ou restauratrice, comment est-ce qu'on doit dire ?
Il y a une multiplicité des appellations, cela dépend un petit peu des pays dans lesquels on en parle. En anglais, vraiment, les anglophones parlent de restorative justice, les Belges de justice réparatrice. Au Québec, avec cette culture française, ont décidé de se distinguer, d'appeler ça restauratrice. Et en France, pour diverses raisons, on est arrivé à l'appellation justice restaurative. Il faut bien comprendre que c'est multiples appellations pour un concept aussi assez protéiforme qui a des définitions et des applications plus particulières selon chaque pays, mais qui répond à des grands principes similaires.
Très bien. Donc en France, comment est-ce que cette justice restaurative donc se présente actuellement ?
Aujourd'hui en France, il a été, la construction actuelle pour proposer la justice restaurative a été vue comme pour bénéficier en fait de tous les professionnels du terrain sur le territoire national, de former en fait tant l'administration pénitentiaire qui est présente sur tout le territoire jusqu'en outre-mer. Que de l'autre côté, du côté de l'accompagnement des victimes, les associations d'aide aux victimes, puisqu'il y a à peu près de 100 à 130 associations d'aide aux victimes sur tout le territoire, a été pensé au début de former les personnes, ces professionnels qui sont déjà présents sur tout le territoire et qui ont contact évidemment avec personnes auteurs et personnes victimes, en fait leur rajouter une casquette pour pouvoir accompagner ces personnes, auteurs et victimes, dans des démarches et différentes modalités de justice restaurative. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il peut avoir des programmes à Dijon, à Marseille, à La Réunion, en Île-de-France. Néanmoins, une petite difficulté qu'on retrouve régulièrement de par cette construction partenariale, c'est que ce sont des professionnels, malgré l'enrichissement que ça crée dans leur posture professionnelle, qui ont évidemment déjà un agenda fort bien chargé, des ressources humaines pas forcément dédiées à ajouter une mission supplémentaire. Et donc, si un investissement réel est fait en termes de formation de la part tant du gouvernement que des administrations, etc., après, pour suivre et vraiment dédier du temps des professionnels pour accompagner les personnes auteurs et victimes dans des dispositifs de justice restaurative, qui sont des choses avec des temporalités, des dispositifs avec des temporalités particulières, non prévues dès le début, c'est quelque chose qui est un défi auquel on doit répondre dans l'organisation de cette offre de justice restaurative.
D'accord.
Aujourd'hui, en tout cas, peut-être pour vous y répondre plus clairement, ou pour les personnes qui nous écoutent, c'est que pour pouvoir se voir proposer un espace de dialogue sécurisé, à savoir différentes modalités de justice restaurative, il faut passer par les bureaux d'aide aux victimes qui ont lieu dans les tribunaux judiciaires ou les associations d'aide aux victimes qui ont des antennes ici et là. Et pour les auteurs, c'est en général au niveau des SPIP. Même si pour autant, dans la loi, il est prévu que dès le dépôt de plainte, les officiers de police judiciaire puissent informer de ce droit. On n'y est pas tout de suite. Voilà.
D'accord.
Il y a une progression, une marge de progression énorme sur l'information à donner aux personnes susceptibles de participer.
D'accord. Et donc, l'initiative vient de la victime et jamais de l'auteur, par exemple.
Non. En fait, aujourd'hui, l'information vient des professionnels vers la personne lambda, la personne victime, personne auteur. D'accord. Lorsqu'il y a une saisine directe, c'est-à-dire une personne victime ou une personne auteur qui, par cheminement précédent, souhaite se saisir d'une mesure de justice restaurative, il arrive que nous, IFJR, on ait des contacts directs, que soit on contacte les groupes projets locaux, mais ça peut être une demande émanant de l'auteur ou émanant de la victime.
D'accord. Et ensuite, donc, quand cette démarche...
Ou de proches de victimes et proches d'auteurs, pardon, je dois préciser aussi. C'est également, voilà, les proches qui peuvent se saisir d'une démarche de justice restaurative.
D'accord. Et donc, une fois cette démarche enclenchée, comment dire, comment concrètement est-ce que ça se passe? Est-ce que les dispositifs varient en fait d'un lieu à l'autre ou est-ce que c'est toujours le même déroulé?
Alors, la justice restaurative, dans son idéal, répond aux attentes des personnes, tant auteurs que victimes. Donc, les attentes étant différentes, parfois il s'agit de vouloir rencontrer pour des motifs divers et variés la personne de l'infraction que l'on a subie ou commise. Et parfois, au contraire, cela est inenvisageable. Et du coup, on a des questions à poser ou quelque chose à dire, mais à des gens qui ont commis ou subi le même genre de fait. Et du coup, puisque les attentes sont différentes, les réponses que l'on doit donner s'adaptent à cela. Du coup, il y a des RCV-RDV, ce qui est pour des personnes qui ne sont pas concernées par les mêmes affaires et cela se passe en groupe. Et il y a les médiations restauratives pour les personnes liées par la même affaire ou les conférences restauratives qui associent les proches pour les personnes liées par la même affaire. Voilà.
D'accord. Quand vous dites qu'il y a, enfin, apparemment, donc, il y a une certaine marge de manœuvre pour déterminer quelle sera la forme que prendra la justice restaurative, est-ce qu'une victime, par exemple, a la possibilité de prescrire une peine symbolique à l'auteur? Une forme de réparation, mais qui soit constructive aussi pour lui, comme, je ne sais pas, une formation professionnelle ou quelque chose dans ce style-là.
Ouais. Alors, en général, la justice restaurative, en tout cas à la manière dont on l'applique en France, est vraiment quelque chose où on informe les personnes que c'est pour un travail relationnel, c'est-à-dire un cheminement individuel, etc. Et donc, on n'est pas dans l'optique, en tout cas pour les médiations restauratives ou conférences restauratives, d'atteindre un accord pour les personnes, enfin, qui soient liées au parcours de peine, en tout cas. Néanmoins, le climat installé par le médiateur ou par l'animateur de tel et tel dispositif peut parfois rendre l'échange propice à ce que cela intervienne. D'accord. Mais ce n'est ni une obligation, ni un objectif. Et ça sera quelque chose qui sera de l'ordre vraiment d'une attente que l'on doit répondre aux personnes victimes et auteurs. Mais par exemple, je prends un exemple en Belgique, où pour le coup c'est bien plus imprégné à la procédure pénale. Un des exemples avait été que pour quelque chose de juste d'ordre symbolique, puisque le parcours de peine était tracé et la victime n'avait pas son mot à dire là-dedans, ils étaient quand même arrivés, l'auteur et la victime, à un accord sur le fait que vivant dans une zone géographique relativement petite, enfin je crois dans le même village ou ville, le cimetière étant le même et chacun d'eux ayant un proche, dont notamment la victime qui avait été tuée par l'auteur, puisque dans la médiation restaurative, c'était le proche de la victime qui était là, ils avaient dû s'organiser, ils avaient souhaité s'organiser en fin de médiation restaurative à ce que l'un et l'autre n'aillent pas les mêmes jours rendre visite à leurs proches au cimetière. C'était une forme d'accord qui n'a aucun impact sur la procédure pénale, mais ça peut aussi avoir lieu, effectivement, on voit dans un cas belge, une personne victime qui, pour elle, l'un des signes les plus importants de la réparation du cheminement de l'auteur aurait été une inscription et sa réinsertion. Effectivement, elle avait exigé ça dans une attente, puis là, et vers ça. Mais c'est des choses vraiment, là, ça, c'est pas des choses qui se font encore en France. Quand je dis encore, sans certitude qu'un jour ça se fera, tout étant non pas en construction, mais je pense qu'il y a des mouvements qui traversent ça. C'est une dynamique quand même, la justice restaurative. L'accord en France, s'il intervient, ça sera vraiment voilà, d'ordre symbolique et n'interviendra jamais comme un stage ou une réinsertion professionnelle, etc. Elle pourra le mentionner, la victime, mais libre à l'auteur, effectivement, de s'en saisir ou non. Et cela ne sera pas forcément une information donnée au juge, en tout cas en France. Ça, c'est vraiment dans l'exemple des cas des médiations restauratives qui sont aujourd'hui légèrement moins, et je pense que tout est à venir, appliquées, pratiquées sur notre territoire. Pour ce qui est des RCV-RDV, lors des rencontres de groupe où il y a 3-4 auteurs, 3-4 victimes qui se réunissent à plusieurs reprises, lors de la rencontre bilan, en fin de dispositif, qui a duré en général entre 2-4 mois selon le temps de préparation, etc., il y a, et c'est vraiment selon chacun, la possibilité d'amener ce qu'on appelle, au début, on a parlé d'un cadeau, mais c'est vraiment un souvenir à titre symbolique. Je ne veux pas donner d'exemples trop précis si reflétait et que les gens, éventuellement, s'ils écoutent, se reconnaissent, mais avec cantiner quelque chose en prison pour le dédier aux victimes avec un message écrit. Donc là, c'est vraiment un échange d'ordre symbolique, un souvenir. Des victimes aussi ont pu faire ça. Une personne victime avait fait une danse Voilà. Mais il y a quelque chose, encore une fois, d'extrêmement volontaire, c'est un remerciement de ce type-là, quoi. Voilà.
Je pense que c'est intéressant du moment où, voilà, où on sollicite un peu la créativité des uns et des autres. Et puis le... C'est une forme de liberté aussi, enfin, d'offrir quelque chose, finalement.
Sans que ça devienne un élément de préparation énorme, en tout cas, il faut que les personnes puissent être prêtes à effectivement se dire bah, recevoir ça de tel ou enfin, oui. Tout est dans la justice restaurative et l'énorme part de la sécurisation de ce dispositif relève du fait de la préparation avec les animateurs, que ce soit médiation restaurative, conférence ou RCVRDV. Mais du coup, oui, il peut intervenir ce genre de choses, évidemment. Tout est aussi question de volonté des personnes de s'en emparer. Voilà. On respecte énormément le volontariat, l'adhésion. Il n'y aura jamais de contrainte, quelle que soit, que ce soit pour un accord, que ce soit pour la démarche du début enclenchée. Il n'y a pas de carotte derrière ça. On n'a pas d'intérêt autre que personnel à participer à ça, victime ou auteur d'ailleurs.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'en France, donc, la justice restaurative, elle est un complément à la justice pénale. Est-ce qu'il y a des pays où elle peut être si substituée? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça en France?
Dans certains pays, effectivement, notamment en Belgique, lorsqu'on voit des exemples, ça peut avoir un effet ou un impact non systématique, pris en compte par les juges, sur la suite de l'exécution de la peine. Je pense que c'est justement pour éviter, puisque ça date de 2014, l'installation dans la loi de la justice restaurative, dans la loi française, c'est pour justement éviter d'être peut-être taxé comme laxiste ou il y a quand même encore, il y a 10 ans en arrière, beaucoup de boucliers levés à l'idée de pouvoir faire se rencontrer auteurs et victimes. On part plutôt sur des mondes assez cloisonnés pour a priori protéger la procédure pénale ou soi-disant protéger les personnes victimes et auteurs, peut-être parfois. Donc, je pense que l'idée aujourd'hui, enfin, l'idée du législateur était probablement de se protéger, de peut-être... Après, je peux pas définir comment, à mon niveau, savoir si les choses évolueront, si c'est bien qu'elles évoluent. Je sais que par nos homologues européens, que ce soit en Espagne, en Irlande, en Angleterre, en Belgique et d'autres, lorsqu'on les rencontre dans le Forum européen pour la justice restaurative, nous ne sommes pas très bien compris, les Français, à l'idée que aucun impact et confidentialité absolue pour ces mesures de justice restaurative, ce qui se comprend puisque certes ne pas faire ça pour la carotte, mais finalement lorsqu'on s'intègre dans un dispositif, la temporalité, le cheminement, la préparation des personnes par les professionnels pourrait garantir qu'en fait on ne fait pas ça pour cela, mais que si à un moment vraiment quelque chose se passe pour l'auteur au niveau de la prise de conscience, au niveau de la réintégration, au niveau même d'un accord symbolique comme vous le disiez, et qui ferait presque peut-être parfois plus de sens, de ne pas du tout avoir la possibilité d'en faire part ou que ça soit évalué ou considéré sans être évalué, il y a presque quelque chose de schizophrénique, c'est-à-dire que la peine serait là à côté alors qu'on essaye toujours de donner un sens à la peine dans le milieu carcéral. Donc voilà, j'ai du mal à répondre de manière tranchée parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un des arguments qui fait que les personnes osent s'en saisir, en tout cas les professionnels, c'est de se dire que ça ne peut pas être utilisé par l'auteur. Le fait que ça soit sans contrepartie autre que personnelle. Néanmoins, voilà, je pense que ça aurait un intérêt à ce que, à la marge, selon les cas, il puisse être apprécié et considéré pour le suite du parcours du détenu ou du condamné.
On peut constater un bénéfice de cette justice par rapport à la justice pénale.
Ce que j'ai pu constater à travers mes expériences en ayant animé 3 RCVRDV de ce type ou une médiation restaurative ou en supervisant d'autres projets, les personnes victimes témoignent vraiment enfin de dispositifs de si le crime pouvait être quasiment à chaque coin de rue, enfin selon le type d'infraction aussi, il y a une baisse de la peur du crime. Enfin voilà, on a réhumanisé en face, on a vu que dans quoi s'inscrivait le passage à la violence, etc. Donc il y a une baisse de la peur du crime, une déculpabilisation. En fait, je comprends que je n'ai pas été responsable dans ce qui m'est arrivé.
Je pense que l'idée aussi de ne pas avoir été visée spécifiquement, mais d'avoir été choisie entre guillemets au hasard,
ça
peut être aussi réparateur.
Oui, tout à fait. C'est en ça que je parle de se déculpabiliser, parce qu'il y a parfois souvent des réactions de « si j'avais réagi comme ça, si j'avais réagi comme ça, ou si j'avais pas été là ». Et du coup, à ce niveau-là, on se dit oui. Et donc, baisse de la peur du crime, déculpabilisation, un certain apaisement de la colère pour celles qui arrivent très en colère, une petite progression, même si c'est pas sur l'estime d'elle-même, c'est-à-dire, en fait… j'ai le courage d'arriver là, j'arrive à m'exprimer, je me fais entendre de cette manière et je suis considérée aussi de cette manière. Et puis tout, enfin le plus basique, c'est soit obtenir des réponses aux questions qu'elle se pose sans arrêt, parfois en boucle comme ça justement. Et si j'avais pas été là, et si j'avais fait ça. Et parfois admettre aussi qu'en fait au bout du processus, si on n'a pas les réponses, peut-être qu'on les obtiendra jamais aussi, et se résoudre à quelque chose de cet ordre de « ben cette question n'a pas de réponse, elle m'appartient » et voilà. Pour ce qui est des personnes auteurs, ce qu'on a pu noter, qui est assez fréquent, c'est quand même aussi effectivement d'être à nouveau rétabli en fait dans cette posture juste humaine, et pas comme le détenu avec son numéro d'écrou ou le condamné avec son bracelet à la figure de monstre aux yeux des personnes victimes quand elles arrivent. Mais d'être vraiment rétabli dans son humanité, bah, ça contribue évidemment à une meilleure estime d'eux-mêmes. Il y a une meilleure compréhension aussi. Je me souviens d'un auteur qui n'investissait pas du tout son suivi thérapeutique, et ça représente pas qu'un seul cas que j'ai accompagné, et qui, en voyant en fait la manière dont certaines victimes étaient démunies malgré l'existence des associations d'aide aux victimes, mais qui n'accueillent pas aujourd'hui toutes les victimes, en fait, en voyant l'aspect démuni des victimes, c'est-à-dire avec seul, en fait, une fois que ça arrive, si on n'arrive pas à saisir un psy ou si on n'arrive pas, enfin voilà, à se dire, mais moi, en fait, aujourd'hui, pour réavancer, pour continuer, j'ai ça qui m'est donné. Je vais m'en saisir. Et donc, du coup, se dire presque, ben voilà, le temps que je vais être accompagnée, je vais utiliser ça pour tenter de rebondir. Donc, un bénéfice à se sentir un peu, on enlève cette étiquette. Et puis, reprendre confiance et se dire éventuellement, ben, si les gens m'accueillent ici comme ça, avec cette bienveillance au fur et à mesure des rencontres, ou peut-être que je peux retrouver une place derrière dans la société. Après, c'est pas dit comme ça, hein, ce dernier. Autant ce que j'ai dit avant, se sentir mieux, avoir une meilleure estime, comprendre des choses, ça peut être dit comme ça. Néanmoins, reprendre confiance dans la société, ça c'est pas évoqué avec. Je dirais pas leurs mots quand je vous dis ça. Et après, vraiment en termes collectif et sociétal, je dirais que pour me rendre compte de ça, à minima en tout cas, on se rend compte que ce qui se passe lors de ces rencontres, il y a vraiment une casse des préjugés en fait, du côté des victimes tant que du côté des auteurs. Il y a plus d'ouverture d'esprit en fin de rencontre, on a déconstruit des préjugés qu'on pouvait avoir sur finalement toute une catégorie de population, tous ceux qui ressemblent à ça, toutes les victimes en fait, ouais. Elles demandent finalement une indemnité, puis en fait on apprend que des fois l'indemnité, elles ne sentent même pas de pouvoir la toucher, puisque c'est quelque chose qui... Elle se sentirait étrange à pouvoir utiliser et dépenser cet argent de l'indemnité. Ça, c'est quelque chose, j'ai entendu des auteurs prendre conscience de ça, alors que c'est un leitmotiv très fréquent quand on entend « Ah, mais elles font ça pour le fric, si elles se sont partées civiles, etc. Ouais. » Mais les préjugés sont aussi valables dans l'autre sens et déconstruits, c'est-à-dire l'idée que la prison est un club med, que finalement on y est nourri, logé. Je rencontre nombreuses victimes qui ont cette idée-là, et lorsqu'elles rencontrent un parcours de détenus ou même de condamnés, elles se rendent compte de d'autres dimensions en fait, de la punition, qu'on n'est pas uniquement privé de liberté, on est privé de lien social avec sa famille, de gagner sa vie, et qu'ensuite l'étiquette colle. Ouais. Donc il y a voilà, en termes sociétal, il y a cette ouverture d'esprit réciproque qui est vraiment, je crois, très bénéfique.
Oui, parce qu'au départ, c'est vrai que le problème de la justice pénale, c'est qu'en fait, enfin, il me semble qu'il y a un énorme décalage entre peut-être ce que l'auteur a l'impression de commettre, ce qu'il ressent qu'il commet, ou il peut faire avec une forme de légèreté, en fait, et ce qui est subi par la victime en termes de conséquences, qui est souvent dévastateur, même pour des délits pas très, très majeurs. Et en fait, il y a un énorme décalage entre ce que peut proposer la justice comme réparation pénale à la victime, où en général, le contenu n'y est pas du tout. Et inversement, pour l'auteur, finalement, c'est vrai que l'enfermement, on entend beaucoup, voilà, la peine est trop légère, etc. Mais quand on passe ne serait-ce que quelques mois enfermé dans ces conditions-là, c'est pas léger du tout, en vérité. Donc finalement, il y a pas tellement de possibilités de réparer par l'enfermement.
Ouais, tout à fait.
La justice restaurative, enfin, propose un système beaucoup plus flexible et beaucoup plus inventif, finalement. Comme vous dites, basé sur le relationnel, et c'est tout ce qui nous motive dans la vie, le relationnel. Et est-ce qu'on peut imaginer d'implanter un système un peu similaire, par exemple dans les écoles ou dans les collèges? Est-ce que la justice restaurative peut fonctionner dans ces établissements-là?
Tout à fait. Alors, pour ce qui est de la France, en tant qu'Institut français pour la justice restaurative, je vous parle actuellement, en tout cas, de la justice restaurative qui s'applique dans le cadre de la loi et de 10-1, c'est-à-dire complémentaire au champ pénal. Ouais. Néanmoins, la prose restaurative, avec cette circularité de la parole, les cercles restauratifs, les conférences restauratives, ont absolument tout intérêt à se déployer dans différents secteurs. Je pense que même, enfin secteur, quand je dis secteur, c'est-à-dire même bénéficiaires, non pas que auteurs et victimes liés par le système pénal, mais se sentir victime, se sentir auteur, se sentir responsable, et du coup travailler le lien ou l'aspect relationnel là-dessus. Je pense que c'est pour faire plus simple, oui, je pense que dans une classe, dans un hôpital dysfonctionnant en termes de, dans plein d'écosystèmes dysfonctionnants, je pense que la circularité de la parole, le fait de, en transparence, essayer de résoudre les conflits ou de s'exprimer en sincérité, dans une certaine confidentialité, je pense que ça a tout intérêt. Je pense qu'il y a même certaines associations qui s'en emparent et qui ont des systèmes relativement proche ou en tout cas correspondant à la philosophie globale dans le système, par exemple, d'éducation nationale. Je ne les connais pas bien, je connais moins, puisqu'on n'est pas dans le champ pénal, mais je pense que ça a tout intérêt, effectivement.
Est-ce que la justice restaurative en France, actuellement, est réservée à des délits mineurs ?
Alors, pour le moment, dans son application, non, pas du tout. C'est-à-dire que pour ce qui est des RCV, RDV et même de certaines médiations restauratives qui ont eu lieu, on est sur des infractions qui concernent des homicides, des viols, des vols avec violence, des braquages, des homicides suite à conduite en état d'ivresse et en face avec des personnes grièvement blessées suite à des accidents de voiture. Il y a 3 sessions de rencontres détenues victimes entre 2018 et 2019 qui ont réuni des personnes concernées par des violences conjugales graves. Justement, puisque la loi a eu cette soit frilosité, soit cette précaution en termes d'installation de cette démarche en France, d'avoir aucune répercussion sur la procédure pénale, les professionnels ont osé s'en emparer pour des choses relativement, enfin, qu'on qualifie de graves. Mmh. Ce qui est moins le cas pour des médiations restauratives où il y a encore une vraie crainte de la part des professionnels de soi-disant peut-être revictimiser la victime ou de. Alors qu'en fait, lorsqu'on s'intéresse vraiment et qu'on se forme à la justice restaurative, on voit qu'un nombre de balises et l'approche que l'on adopte en tant que professionnel accompagnant victime et auteur sécurise énormément la démarche. Néanmoins, voilà, pour les médiations restauratives, notamment appliquées pour les mineurs, les professionnels tendent à le proposer davantage à des délits mineurs. Mais voilà, ça n'est pas que le cas, notamment pour les RCV-RDV. Mmh.
Et sinon, quelle justice réparatrice pour la victime lorsque l'agresseur n'est pas identifié ni sanctionné ?
On peut justement orienter justement vers ce qui est des rencontres condamnées victimes, auteurs victimes, où on fait rencontrer un auteur qui a commis le même genre de choses.
Voilà. D'accord, ok. Voilà. Ok, très bien.
Au revoir Nathalie, bonne journée. Au revoir.
Au revoir Héloïse. Un grand merci à Héloïse qui nous a accordé un peu plus de temps que prévu sur ce sujet. Espérons que notre système judiciaire actionne de manière plus systématique ses leviers pour plus d'humanisation et d'ouverture réciproque. Pour ceux que cette approche intéresse, il existe au-delà de son versant judiciaire des groupes locaux s'inspirant de la démarche des cercles restauratifs créés par Dominique Barter dans les favelas au Brésil dans les années 1990. Ces cercles ont pour objectif d'aider toute communauté humaine vivant un conflit, quartier, famille, établissement scolaire, à travers un dialogue en 3 étapes. Première étape, se comprendre mutuellement. Deuxième étape, prendre sa responsabilité dans l'évolution de la situation. Et troisième étape, se mettre d'accord sur un plan d'action. Cette méthode opérante dans de multiples contextes a essaimé dans le monde. Elle est appliquée parfois en association avec d'autres, comme la communication non violente. En France, elle est appliquée relativement discrètement, y compris dans certains établissements scolaires.
Et c'est la fin de cette première partie de Près du cœur. Vous pourrez retrouver Nathalie accompagnée de Stéphanie la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une émission plus musicale avec les dédicaces. Bonne fin de journée sur Marmite FM.
La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue. étaient tout bêtes. Les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'Orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient la chansonnette. Tiens, tiens.